L'avocat des terreurs. Alexandre est un jeune avocat au barreau de Paris. À partir de 2015, il commence à défendre des radicalisés djihadistes, des volontaires au départ vers la Syrie, des revenants de zones de conflit, des cas de financement du terrorisme, ou encore des attentats déjoués. Bien sûr, défendre les terreurs, c'est inaudible. Comment la justice a-t-elle répondu à la vague terroriste ? Comment défendre et punir le djihadisme terroriste en France ? Épisode 3. Gardé à vue.
Soit je suis appelé pour assister les gens devant le juge d'instruction, soit je suis appelé dès le stade de la garde à vue, quand ils vont être interrogés par les policiers.
Alexandre rencontre ses clients radicalisés djihadistes des dizaines de fois au cours de la procédure.
En matière de terrorisme, au début, en tout cas en 2015, la quasi-totalité des gardes à vue, elle a lieu à Levallois-Perret, au siège de la DGSI. Une garde à vue en matière de terrorisme, c'est quelque chose de pesant. On n'est pas dans le romanesque du délinquant qui fume une cigarette avec le policier en lui racontant ses exploits de montant l'air, en lui disant « Ah bravo, vous avez fait une belle enquête, bravo inspecteur, j'ai mis du temps à t'avoir, mais je t'ai eu ». Non, tout ça c'est... En tout cas, moi j'ai pas connu ça en matière de terrorisme, ça rigole pas du tout. On est là pour arrêter le terrorisme en France, et tout le monde te le fait sentir. Déjà tu mets un temps fou à rentrer. On te fait attendre une bonne vingtaine, trentaine de minutes dans une petite salle. Et là, déjà, première surprise, c'est vraiment pas un entretien comme dans un commissariat de quartier où, avec une table, deux chaises, et tu peux parler avec la personne. Là, t'es face à un hygiaphone dans une pièce blanche. Il y a une vitre de 4 cm entre nous. Et puis c'est un vrai hygiaphone, c'est pas une petite vitre. Il suffit pas de parler fort pour s'entendre, faut vraiment qu'on se parle par un téléphone. Lui, il est très jeune, il a 18 ans, il est apeuré. Et pendant 6 jours, je vais l'assister sans trop savoir ce qu'on lui reproche. Alors en fait, on lui reprochera d'avoir été en contact avec des gens sur zone. On se parle, mais forcément, moi, j'ai pas beaucoup d'informations vu qu'on est en début d'une garde à vue. L'avocat, en début de garde à vue, il sert pas à grand-chose. Hein. Il sert à être là parce que on a estimé que l'avocat présent dans la pièce lors de la garde à vue, c'est une garantie que, bah, concrètement, que le mec est un peu respecté. Et effectivement, les conditions de la garde à vue sont hard, je trouve. Moi, je me souviens d'une pause de garde à vue où, entre deux interrogatoires, on a laissé mon client accrocher un radiateur. Ce que j'avais jamais vu dans un commissariat de quartier. Là, clairement, on le laisse accrocher dans un coin. Très clairement, le ton est aussi différent. On est sur un certain ton grave. C'est toujours deux personnes par garde à vue. Ça rigole pas, quoi.
Alexandre évoque ensuite le dossier 12-243. Un jeune homme né à Marseille en 1992, sans profession.
Moi, j'assiste à l'interrogatoire. Je suis à ses côtés pendant les 8-10 auditions qu'il a devant l'inspecteur. Donc forcément, lui, il est de plus en plus fatigué. Donc le quatrième jour, le mec, il est rincé. Enfin, en plus, là, on parle d'un jeune qui est un peu radicalisé, qui fréquente des milieux sur Internet un peu chauds. Mais bon, il n'a pas fait de projet de départ. Il est en panique. Il dit tout. Et il n'a rien à cacher. Enfin, il n'y a rien chez lui. Il y a quelques vidéos d'exactions sur zone commises en Syrie par l'État islamique dans son ordinateur, ça qu'on retrouve, mais quelques, on n'en retrouve pas 300 ou 400, comme c'est le cas de personnes qui pourraient être très radicalisées. Il passe clairement pas sa journée à ça, mais voilà, c'est quelqu'un qui est un peu en train de... Depuis quelques mois, il est sur cette pente-là, quoi.
Extrait du rapport psychologique. Par le biais de sa passion aux jeux vidéo, il a consulté de nombreux sites avec forums et en est venu à consulter une page sur l'islam. Ce qui l'a incité à acheter de nombreux livres sur le sujet. Il souhaitait ainsi approfondir ses recherches par curiosité. Il associe cela à une expérience et avait l'envie d'aller au bout des choses. Il s'est converti en 2013, seul dans sa chambre, et a par suite été prendre des renseignements à la mosquée. Il était en capacité d'aller à la mosquée le vendredi et à l'église le dimanche.
Il y a d'autres personnes de son groupe d'amis qui fréquentent la même mosquée qui, eux, ont fait un projet de départ en Syrie. Mais lui, il ne l'a pas fait. Lui n'en fait pas partie. On arrivera à le démontrer. Ce sera corroboré par les autres. Donc, il ne partira pas en détention. Enfin, il n'ira pas voir un juge d'instruction. Et il sera même innocenté. Mais c'est super rare. On va lui demander quel est son rapport à la religion. Et on va lui demander précisément. On va lui demander, est-ce que vous connaissez les cinq piliers de l'islam? Quels sont les préceptes de la foi? Et vous pensez quoi de tel savant ou de tel courant? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est arrivé à telle tribu? Des exemples vraiment très concrets de choses qui peuvent être expliquées dans le Coran. Est-ce qu'on guette? C'est la réaction, c'est voir si cette personne, d'une part, elle y connaît quelque chose, d'autre part, est-ce qu'elle est versée dans un courant plutôt traditionnaliste, salafiste, un peu hard. Et puis ensuite, on arrive dans le dur. Qu'est-ce que vous pensez des attentats? Qu'est-ce que vous pensez de Charlie Hebdo? Est-ce que vous cautionnez ou pas? Pourquoi on retrouve telle vidéo? Là, on commence à rentrer dans les faits, mais ça commence par « est-ce que vous êtes musulman ?» Enfin, ça part de là quand même. J'ai un autre client qui refusera de répondre à toutes les questions sur la religion. Pourquoi il refuse? C'est que, oui, il est un peu radicalisé et il ne veut pas qu'on se serve de son rapport à la religion de sa foi pour le condamner pour terrorisme. Ça, c'était un peu son obsession. Il avait raison sur le principe, en tout cas, mais il prenait de plein fouet le contre-pied de la stratégie des enquêteurs, puisqu'on va démontrer une personnalité à risque et ensuite on va vers les preuves qui montrent qu'éventuellement il a voulu partir en Syrie, faire un attentat. Là, en l'occurrence, c'est une question de projet de départ en Syrie. Bon, il était un peu sans espoir, hein. C'est-à-dire qu'il savait qu'il allait partir en détention provisoire, il savait qu'il allait être poursuivi pour ce projet de départ, il avait des contacts avec des passeurs, enfin, il était motivé pour rejoindre la zone syro-irakienne et combattre le régime de Bachar al-Assad. Mais il y a des personnes qui vont comprendre pourquoi on les interpelle, parce qu'ils comprennent bien que c'est un peu interdit, que c'est quand même réprimé le fait de partir en Syrie, rejoindre un groupe terroriste, mais ils ne comprennent pas que c'est réprimé comme un acte de terrorisme. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est interdit, mais ils ne pensent pas qu'on va les voir comme des terroristes parce qu'ils veulent aller, selon eux, combattre Bachar al-Assad et accomplir le devoir de tout bon musulman, entre guillemets évidemment. Il y a toujours un temps d'explication, il faut leur dire, bah oui, mais ça, rien qu'avoir voulu partir à la masse, ça fait de vous un terroriste au sens de la loi. Parce que pour eux, être un terroriste, c'est faire une bombe, c'est les Kouachi, c'est tirer en France sur des innocents ou sur des militaires. Et même s'ils cautionnent une partie de l'action d'un groupe terroriste en Syrie, pour autant, ils cautionnent peut-être pas les attentats en France. Mais alors cette nuance, déjà, elle est complexe à expliquer à un juge ou à expliquer au commun des mortels. Mais pour eux, elle est très claire. Ils vont se dire, ouais, mais c'est pas parce que je suis d'accord avec les actions de ce groupe que moi, j'aurais envie de commettre un attentat en France. C'est vrai, on comprend ce qu'ils veulent dire, mais ça ne change pas rien au fait que, en l'état, on va les poursuivre pour un acte de terrorisme qui est le simple fait d'avoir voulu rejoindre le groupe.
À suivre sur arteradio.com.
Et donc lui, cette personne qui ne veut pas répondre sur sa religion, c'est ça qu'elle veut démontrer. Elle veut dire, moi je ne suis pas un terroriste, même si j'ai une certaine idéologie, j'ai une certaine croyance religieuse qui m'amène à vouloir partir, ça ne fait pas de moi un terroriste. Alors qu'en fait, légalement, en tout cas juridiquement, si.